Bonsoir à tous et bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture, tous les dimanches à 17h. Ce soir, en fin d'émission, nous plongerons dans les algorithmes, peut-être un peu trop secrets, de l'éducation nationale avec l'économiste Julien Grenet. Et puis le dossier de Rue des Écoles est lui consacré à la laïcité. Faut-il rouvrir ce débat? Le sujet fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui même, on l'a vu, on y reviendra. La laïcité à la française appliquée à l'école est-elle perfectible? C'est la question que je poserai à mes invités, que je salue tout de suite. Caroline Isambert, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jérôme Martin, vous êtes tous deux enseignants.
Bonjour.
Vous avez publié collectivement un ouvrage intitulé « Petit manuel pour une laïcité apaisée » sous la direction de Jean Bobéreau. Vous faites partie du cercle des enseignants laïques. Je salue également Henri Pénaruis, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, écrivain, auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité chez Plon. Et enfin, Marie-Caroline Missire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours directrice de la rédaction de l'étudiant et je m'en réjouis d'étudiants partenaires de Rue des Écoles. Au programme des actus ce soir,
bien, je vais parler des algorithmes de l'éducation nationale et d'une très hypothétique réforme du lycée, vous verrez.
On commence tout de suite. Et nous entamons ces actualités avec une histoire d'algorithme, certes, mais aussi de mutation à Paris.
Et c'est une petite bombe qu'a lancé le recteur de Paris, François Veil, en ce début de semaine, réagissant à la polémique lancée par l'économiste Thomas Piketty sur la spectaculaire concentration sociale.
On en a parlé ici.
Des collèges parisiens. Le recteur a annoncé qu'il préparait un algorithme pour réguler socialement l'entrée au collège. Le mot est lâché, algorithme, c'est-à-dire l'exact inverse de ce qu'assurait la ministre quelques jours plus tôt dans Le Monde. Je vous rafraîchis la mémoire, la mixité ne se décrète pas par le haut et encore moins par la baguette magique d'un algorithme, expliquait-elle alors. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Mais dès le lendemain de la bombinette du recteur, eh bien, il n'était plus recteur de Paris. Et vous savez combien j'ai mauvais esprit.
Oui, je sais. Explication de texte, Marie-Caroline Missire.
Je ne peux m'empêcher de lier les deux épisodes. D'aucuns vous diront que le recteur de Paris attendait sa nomination de conseiller d'État et qu'il l'a obtenue à la faveur de ce nouveau mouvement de recteur.
Ah oui, voilà.
Mais, de fait, son initiative algorithmique montre qu'il y a bien un gros souci de mixité dans les collèges parisiens et que jusqu'ici, le gouvernement, contrairement aux intentions affichées par François Hollande en 2012, n'a pas vraiment inversé la donne. Morale de cette séquence, la carte scolaire est un sujet brûlant politiquement sur lequel il est manifestement dangereux de s'aventurer à quelques mois d'une présidentielle.
Nous reviendrons donc en détail sur l'intérêt et les limites de ces algorithmes appliqués à l'affectation des élèves. Mais arrêtons-nous sur ce mouvement des recteurs, ou plutôt de rectrices, car pour la première fois, la parité est atteinte. 15 femmes et 15 hommes pilotent désormais les académies.
On peut s'en réjouir, car l'éducation nationale est loin d'être exemplaire en la matière. Je ne vous donne que deux chiffres qui en disent long. 80% de femmes parmi les professeurs des écoles et seulement 16% parmi les présidents d'université. Un déséquilibre que le gouvernement s'emploie à corriger. Mais il reste beaucoup de chemin à faire pour déconstruire les représentations et surtout l'autocensure de femmes brillantes à prétendre à de hautes responsabilités.
Et c'est un sujet qui nous passionne, Marie-Caroline Mission, on en parle bientôt. Et puisque nous sommes dans les chiffres, regardons l'éducation dans les yeux.
C'est ce que nous propose l'OCDE cette semaine avec une série de données sur le système éducatif français qui s'intitule « Regard sur l'éducation ». Pas tellement d'informations nouvelles dans cette étude qui reprend les grands enseignements de l'étude PISA. La France est dans les mauvais élèves de l'OCDE pour le nombre de jours de classe par an, qui est en baisse malgré...
C'est toujours bien de le rappeler.
Absolument, qui est en baisse malgré la réforme des rythmes. Le système éducatif français a aussi tendance à creuser les inégalités et à privilégier dans ses dépenses les lycéens au détriment des élèves de primaire. Mais le regard porté par l'OCDE sur la réforme du collège est intéressant. L'organisation en souligne les côtés positifs, comme le travail en commun des enseignants dans le cadre des EPI, vous savez, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Mais ce n'est pas suffisant, estime-t-elle, sans un réel investissement des profs autour du chef d'établissement dans la gestion, dans le pilotage pédagogique des collèges, la réforme risque de rester au milieu du gué. Et c'est encore l'OCDE qui parle.
Et c'est un vrai risque. Une autre réforme a refait surface en ce mois de septembre, Marie-Caroline, celle du lycée.
Le lycée doit être maintenant la prochaine étape de nos réformes. Le lycée
avec tout ce qu'il exige. Quand je parle du lycée, c'est le lycée général et les lycées professionnels qui doivent être, eux aussi, tournés vers les enjeux d'avenir et également, pour les lycées professionnels, vers les métiers d'avenir. Nous aurons aussi à faire en sorte que nous puissions mieux assurer la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur. On ne peut pas accepter que des familles se sacrifient, que des jeunes puissent utiliser leur temps, parfois pour des enseignements qu'ils ne voulaient pas choisir, qui n'étaient pas leur première orientation.
Voilà, c'est le président de la République qui parlait longuement d'une éventuelle réforme du lycée le 1er septembre, un sujet sur lequel revenait le quotidien Le Monde cette semaine. Donc on voit le sujet monter à quelques mois finalement des élections présidentielles.
C'est la petite surprise de la rentrée, Louise, alors que nous sommes dans les starting blocks, dans les derniers mois du quinquennat. François Hollande, sans grosse prise de risque, propose une réforme du lycée. Bon, peu de chances que celle-ci soit menée au cours de cette mandature, on l'a compris. La dernière réforme remonte quand même à 2009, après la réforme avortée de Xavier Darcos. Depuis, le think tank Terra Nova a proposé une réforme, la Cour des comptes incite régulièrement à la réduction des options pour diminuer les coûts du lycée. Et Alain Juppé propose dans son ouvrage qui est sorti à la rentrée dernière, Mon chemin pour l'école, de rationaliser les moyens alloués au lycée, particulièrement élevés en France, pour en faire profiter le primaire. Il faudra donc sans doute compter avec le lycée dans les thèmes de la campagne présidentielle.
Et une éventuelle réforme du bac, ça aussi c'est un serpent de mer de l'éducation nationale. Enfin, une information de nos confrères de RTL sur l'inspection académique.
En réalité, ça fait longtemps qu'on en parle et le rôle des inspecteurs, ceux qui évaluent et notent les enseignants, est censé s'orienter vers l'accompagnement pédagogique. D'après nos confrères, donc, les professeurs seront désormais évalués 4 fois dans leur carrière, au bout de 8 ans d'ancienneté, 12 ans, 20 ans, 30 ans. On n'est pas loin des 7 ans de moyenne actuelle entre les inspections. Et une évaluation, on aura aussi une évaluation par compétence dans laquelle comptera la capacité à coopérer au sein d'une équipe. Globalement, on peut dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'être évalué tous les 7 ans, clairement, ce n'est pas assez.
C'est noté. Dernière nouvelle en bref, on a vu cette semaine qu'un maire de banlieue parisienne de la commune de Saint-Ouen refusait de scolariser des enfants roms. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Une pétition est lancée. Un mot, Marie-Caroline ?
Oui, alors la scolarisation des enfants roms est un serpent de mer, c'est un sujet aussi qui est bien traité notamment au niveau de la Commission européenne, et c'est un sujet dans lequel on reviendra sans doute.
Oui, dont on avait déjà parlé, les structures existent au sein de l'éducation nationale, et là, bah, comme pour beaucoup de sujets qui concernent l'école, il y a peut-être des arrière-pensées politiques. Moi, je crois qu'on va aussi parler d'arrière-pensées politiques dans le dossier qui suit, la laïcité.
Si la loi de 1882 marque les débuts de la laïcité, l'idée d'une école publique ouverte à tous remonte à la Révolution. En 1792, le député Condorcet fait approuver par la Convention son rapport sur l'instruction publique qui réclame déjà la gratuité de l'enseignement. Près d'un siècle plus tard, après la victoire des Républicains en 1876, Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, promulgue le 28 mars 82 les lois instituant l'obligation scolaire pour tous les enfants de 7 à 13 ans.
L'école est constituée comme un espace laïque, l'école publique. Ce sont ses fondations. Voilà, c'était pour avoir une petite remise en perspective historique. En 1982, c'est une archive de l'INA. On fêtait donc les 100 ans de la loi sur l'école laïque et obligatoire. Et depuis 82, bien, on a affaire en France à des débats récurrents sur l'école libre, les signes religieux des élèves et même des maires éventuellement qui accompagnent les sorties scolaires. Les ABCD de l'égalité aussi récemment. Dans un contexte contemporain tendu, pour des raisons peut-être assez éloignées de l'école au départ, alors le contexte contemporain, quel est-il ? Celui du terrorisme. Et ce n'est pas moi qui fais le lien, mais bien l'éducation nationale, puisque le ministère a voulu explicitement assigner l'école à une mission suite aux attentats de 2014 et 2015. Et cette mission, c'est mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'école. Je cite la phrase officielle sexuelle. Et puis, politisation et dramatisation de toutes les questions liées à la religion dans l'espace public, en particulier l'islam. On ne va pas rappeler tout ce qui s'est passé cet été. Et aujourd'hui même, un sondage, voilà, c'est le hasard, hein, j'avais choisi de vous inviter avant, un sondage du JDD mis en une de l'hebdomadaire. Musulmans de France, l'enquête qui surprend, je cite, et dans les onglets à la une, foulard, 60% des musulmans interrogés seraient favorables à ce que le voile soit autorisé à l'école. Voilà, un débat sans cesse relancé. Peut-être un mot sur cette constante actualité de la laïcité ou des débats qui l'entourent. Est-ce que ça vous surprend finalement qu'on en parle autant et puis que ça retombe toujours sur l'école ? Henri Pénarhuis.
Moi, ce qui me surprend, c'est la méconnaissance volontaire de l'idéal laïque par un certain nombre de personnes qui en parlent. La laïcité, c'est très simple à comprendre. Ce mot laïcité vient d'un mot grec, laos, qui veut dire unité de la population. Autrement dit, l'État, lorsqu'il décide de viser la laïcité, vise l'ensemble du peuple, qui se disait en grec laos. Laïkos, c'était une personne du peuple, sans distinction. On ne sait pas si elle est croyante, athée ou agnostique, et on considère que son option spirituelle, qu'elle soit humaniste athée, comme Camus ou Sartre, qu'elle soit croyante, comme Mère Teresa ou Victor Hugo, ou qu'elle soit agnostique, comme Thomas Huxley, peu importe, la République doit les traiter à égalité. Pas de privilège pour la religion, pas de privilège pour l'athéisme. Liberté de conscience, les croyants sont libres de croire, mais leur croyance n'engage qu'eux. Très important à rappeler. Les athées sont libres de nier l'existence de Dieu, mais cette négation n'engage qu'eux. Marianne, la République, qui porte le bonnet phrygien de l'esclave affranchi, doit viser ce qui est commun à tous. C'est pourquoi elle ne peut pas donner plus aux croyants qu'aux athées, ou aux athées qu'aux croyants. Par exemple, la loi Debré, qui organise le financement public d'écoles privées religieuses, est évidemment anti-laïque et discriminatoire. Bon, alors, je veux dire que la laïcité, c'est très simple à comprendre.
Parce qu'il n'y a pas d'écoles qui seraient athées.
Vous connaissez des écoles privées financées sur fonds publics qui enseigneraient l'humanisme athée, ça n'existe pas. Donc là, il y a une discrimination.
On a bien compris quelle était votre conception de la laïcité, et c'est très clair. En même temps, pourquoi, selon vous, parce que c'était ça ma question, le débat ressurgit tout le temps, continuellement, là encore, on ouvre le journal et on nous parle de remise en cause, d'ajustement possible, demandé.
Je vais vous donner ma thèse, peut-être qu'elle ne satisfera pas tout le monde autour du plateau, mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la laïcité et qui le montrent de façon détournée en lui ajoutant des adjectifs. Par exemple, quand je dis laïcité apaisée, quel est le présupposé de cette notion ? Ça veut dire que c'est la laïcité qui ferait la guerre et qu'il serait temps qu'elle arrête de faire la guerre. Or, sauf erreur de ma part aujourd'hui, dans l'actualité, c'est pas la laïcité qui est guerrière. Ce sont les versions intégristes des religions. Et je dis bien des religions parce qu'il y a une version intégriste du catholicisme qui voulait empêcher la pièce Golgotha Picnic. Il y a une version intégriste du judaïsme. Les gens qui tirent sur les Palestiniens en leur refusant le droit à leur terre. Et il y a une version intégriste de l'islam.
Sur la question, on fait tous bien attention à être œcuménique, si je puis m'exprimer ainsi.
Non, mais pas œcuménique, mais
parler rigoureux. De toutes les religions.
Il faut être très rigoureux. Puisque ce n'est pas la laïcité qui fait la guerre, c'est l'extrémisme religieux. Donc, il faudra plutôt écrire un livre pour des religions apaisées que d'écrire un livre pour une religion, pour une laïcité apaisée. C'est quand même la présupposition, là, est quand même très contestable.
Et vous vous attaquez directement aux enseignants qui sont...
C'est une remarque critique.
Vous faites une remarque critique aux enseignants qui sont en face de vous. Et c'est vrai que les termes des titres de vos livres sont éloquents. Henri Pénarhuis, dictionnaire amoureux de la laïcité. Et vous parlez de laïcité apaisée, Caroline Isambert, pour commencer. Alors, pourquoi avoir choisi cet adjectif ?
Ce terme, on l'a choisi en fonction de l'expérience qu'on a quotidienne dans nos classes. C'est-à-dire que l'attachement à la laïcité idée telle qu'elle vient d'être dessinée, on la partage et on a envie de la transmettre à nos élèves. Et évidemment, le contexte des 10 dernières années a rendu ça extrêmement délicat. Quand la laïcité est malmenée sur la place publique, comme vous le soulignez qu'on en parle mal, c'est difficile de transmettre aux élèves que c'est une valeur émancipatrice et pourtant on en est complètement convaincu. Et ce qu'on voulait par ce livre, c'était donner à la fois notre point de vue, qui est un point de vue d'enseignant mais aussi de citoyen, mais aussi nos trucs et astuces, nos façons de faire pour essayer de donner aux élèves justement cet amour de la laïcité.
Alors je rappelle, si je n'ai pas dit, que vous êtes professeur d'histoire-géographie, Jérôme Martin, et professeur de lettres. Mais pour qu'on pose un peu les cadres de ce débat complexe et sur lequel on revient aussi parce que il est important d'en parler pour les enseignants, pour les parents, parce que le pire en la matière serait de partir sans avoir d'informations, sans y avoir réfléchi, je crois, de ne pas avoir réfléchi à cette question avant que les élèves ne vous la posent, complexifie encore les débats. Alors, pour revenir en arrière, j'essaye de faire court, on part en 1989, c'était la fameuse affaire de Creil.
Il y a un certain végétariat attaché à la personne de ces jeunes filles. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait temps de parler aussi des professeurs, qu'il serait temps de parler aussi du système public d'éducation, qui a, je crois, son mot à dire? Je ne pense pas être particulièrement ferme sur des principes qui, dans le fond, ne sont pas remis en cause par les gens sérieux, car à travers l'histoire, ils ont fait la preuve qu'ils étaient le seul rempart à la barbarie et aux affrontements interculturels, interculturels, intercommunautaires, aux affrontements civils. Donc ceci n'est remis en cause par personne. Je ne suis pas particulièrement ferme, je fais tout simplement mon travail.
Une archive d'Antenne 2, et c'était en 1989, Ernest Chénier, oui. On s'en souvient, le principal du collège de Creil. Marie-Caroline Missire, vous avez une question?
Oui, je m'interroge, je lisais, comme vous tous, avant d'entrer dans ce studio, que Jacques Chirac était manifestement hospitalisé. Jacques Chirac, donc, qui était à l'origine de la loi de 2004 interdisant les signes religieux ostensibles à l'école. On se repose la question aujourd'hui dans des termes assez crus avec ce sondage en une du JDD. Qu'est-ce qui a changé dans les classes, concrètement, vous qui êtes enseignant, qui êtes dans ce quotidien-là, depuis 2004, pour que ce débat sur la laïcité dans les établissements scolaires, alors qu'une loi était censée, après la commission Stasi, après tout un débat, était censée régler le problème, qu'est-ce qui a changé pour que ça se repose dans ces termes-là?
Jérôme Martin.
Je pense que ce qui a changé, c'est la prise de conscience que cette loi de 2004, qui avait été présentée comme une loi d'apaisement de conflits, ne l'est finalement pas. C'est-à-dire que même si elle était, au bout de quelques temps, relativement bien acceptée en ce qui concerne le voile, on lui trouve toujours des raisons de s'étendre. Ça va être le bandeau sur la tête, ça va être la jupe, etc. Donc à partir du moment où on a ouvert la voie d'une évolution du concept de laïcité, où le devoir de neutralité ne s'impose plus aux agents de l'État ou au lieu, mais aux usagers, il n'y a aucune raison de s'arrêter à un moment ou à un autre. Donc cette loi d'apaisement, qui était présenté comme d'apaisement, n'est pas une loi d'apaisement. C'est bien pour ça qu'il nous paraissait important, et même si par ailleurs la loi 2004 n'est pas le centre même du manuel, il y a tous les aspects de la laïcité qui sont abordés ici, du CDI au menu de substitution, il nous paraissait important de revenir là-dessus, de repenser cette loi. Voilà. Et Monsieur Pénaris, faire un livre sur la religion apaisée, en tant qu'enseignant, ça serait anti-laïque. C'est pas à nous d'aller demander à une religion ou à une théologie de s'amender.
Alors, donc, Henri Pénaris va vous répondre. Pour se replacer dans le contexte de la loi de 2004 dont parlait Marie-Caroline, je vous propose d'écouter encore une archive, elles sont importantes pour ce débat.
494 députés sur 577 ont voté pour, une large majorité qui dépasse les clivages politiques.
Je pense que les socialistes et aussi l'UMP, chacun a fait preuve d'esprit civique pour sauvegarder l'école de la République.
Imposer la laïcité avec une partie de la France contre l'autre serait un échec patent pour la République française. Nous n'avions pas le droit de rater cette affaire-là.
Quasi unanimité du PS et de l'UMP, pour le gouvernement c'est un succès. Même si l'UDF s'est en majorité abstenu, certains députés ont même voté contre.
Je crois qu'on a apporté une mauvaise réponse qui semble satisfaisante comme cela, mais qui ne répond pas à la question de fond, qui est celle de comment nous allons répondre à tous ceux qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles et qui ne se voient pas d'autre avenir que de s'afficher dans des revendications fondamentalistes.
Mais aucun groupe parlementaire n'avait imposé une discipline de vote. Du coup, les communistes se sont divisés. Des députés UMP ont voté non, des UDF oui. Le PS était, lui, quasi unanime. Il faut dire que la loi a été complétée en fonction des exigences de la gauche. Comme prévu, l'article 1er interdit dans les écoles publiques le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Mais il devra y avoir un dialogue avec l'élève. Et la loi fera l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur. D'ici là, reste le vote du Sénat. Un vote acquis d'avance, prévu le 2 mars.
Voilà, une archive de 2004, France 3, on a entendu Jack Lang, Pascal Clément de l'UMP et François Sauvadet de l'UDF. Henri Pénard, je crois que vous êtes assez impatient de répondre à Caroline Zambert et Jérôme Martin.
Non, mais chers collègues, déjà, une première chose, vous êtes enseignant, moi aussi, nous sommes collègues. Il faut être rigoureux. Quand vous écrivez « loi sur le voile », c'est parfaitement inexact et vous le savez. Je vais vous lire un extrait du rapport de la commission Stasi dont j'étais membre. Il est dit que les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles tels que la grande croix, le voile ou la kippa. Donc, nous avons veillé, chers collègues, à ce que les trois monothéismes soient mentionnés. La kippa, le voile et la croix charismatique, vous savez, que les JMJ portent sur au moment des journées mondiales de la jeunesse. Donc, l'appellation loi sur le voile est mensongère, et en plus, elle produit un effet de stigmatisation. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que cette appellation mensongère qui a été reprise par des journalistes, comme certains journalistes du Monde qui ont titré la loi sur le voile. Prenez un citoyen de confession musulmane qui passe devant un kiosque à journaux et qui voit loi sur le voile. Il va dire spontanément, mais pourquoi on s'en prend à une religion alors que c'est complètement faux? C'était non pas une loi sur le voile, mais sur les signes ostensibles d'appartenance religieuse. Il faudrait rappeler d'ailleurs qu'Ernest Chénière, le proviseur de Creil, avant d'avoir un problème de voile à régler, avait eu un problème de kippa. C'est-à-dire d'une famille qui envoyait un enfant portant une kippa et que Ernest Chénière avait convoqué la famille et avait demandé la kippa soit ôté à l'entrée de la classe. Donc il est clair que cette loi ne vise pas les musulmans comme tels. Il faut être très clair. Moi, de toute façon, j'étais membre de la commission Stasi, je me serais opposé de toutes mes forces à une loi qui aurait été discriminatoire, c'est-à-dire qui aurait visé les musulmans en tant que tels. Donc il faut arrêter de colporter, comme le fait votre livre, et ça m'a un peu déçu venant de collègues qui sont instruits, qui ont une exigence de rigueur, il faut arrêter de colporter cette appellation loi sur le voile, qui est mensongère, qui est fausse, et qui produit le sentiment de discrimination qu'après, elle va évidemment dénoncer.
Alors, réponse, et sur deux points. Déjà, sur le terme utilisé, loi sur le voile, au lieu du titre exact de la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques, c'est bien celui-là. Ensuite, le nom de la loi. Ensuite, sur l'idée de ostentatoire, ostensible, parce que ça prête quand même à interprétation, et c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure avec ces histoires de bandeaux. On a vu aussi des affaires de jupes longues, donc c'est là aussi où se joue le travail des enseignants.
Tout à fait, une partie du quotidien des établissements qui peut amener à ces raccourcis, mais ils sont les raccourcis du quotidien des enseignants et des élèves, c'est des querelles nombreuses sur peut-on porter une jupe noire longue tous les jours, peut-on avoir un bandeau d'une certaine taille, et on voit bien que ça ne mène à rien, c'est-à-dire que d'un côté on a cette nécessité, et je pense qu'on la partage, d'accueillir les jeunes filles, parce que c'est des jeunes filles que ça concerne, systématiquement, de les accueillir dans nos classes, de leur proposer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de savoirs. Et d'un autre côté, on a des interprétations de la loi que permettent les textes d'application qui vont amener à des débats, qui vont les mettre de côté. C'est-à-dire que notre projet pédagogique d'enseignants, il est mis en péril par ces querelles qui sont en plus incompréhensibles pour les élèves. Pourquoi l'un va pouvoir porter un bandeau? Pourquoi une chose va être interprétée comme religieuse et l'autre pas? C'est extrêmement difficile et ça fragilise l'ensemble des projets pédagogiques des établissements. La deuxième question, c'est la question des prolongements de cette loi de 2004, je vais m'arrêter là, c'est l'interdiction ou la possibilité d'interdire que les mères voilées qui sont, alors il n'y a pas que des mères voilées, mais il y en a, qui sont souvent nos principales alliées dans les quartiers populaires, les parents d'élèves, pour essayer de faire émerger des élèves, de faire émerger des projets d'orientation. Eh bien, on les a mis à l'écart. Et toutes ces prolongements de la loi, qui n'étaient peut-être pas dans l'esprit de ses concepteurs, eh bien, ils empoisonnent l'école au quotidien. Et c'est ça qu'on cherche à apaiser par notre manuel.
Mes chers collègues, je vais vous répondre.
Henri Pédard.
D'abord, nous avons... clairement indiqué que en cas d'infraction à la règle, il n'y avait pas à sévir tout de suite, qu'il fallait convoquer la famille, qu'il fallait dialoguer.
On l'a entendu dans les archives,
des enfants avec lesquels on doit dialoguer. Ça, je crois que c'est clair. On n'est pas là, on est des éducateurs. On explique pourquoi il y a cette règle. Ça, c'était dans le rapport Stasi. Ensuite, vous dites que c'est relativiste ou relative par rapport à la taille. Non, on a dit expressément, j'ai le rapport Stasi sous les yeux, par exemple, qu'une petite main de Fatma, un petit crucifix qu'une personne tient sur son chandail n'est pas jugé ostentatoire. Ostentatoire, il faudrait garder le latin. Malheureusement, on sait la ministre le rôle qu'elle joue dans la destruction de l'enseignement du latin et du grec, hélas, mais le latin ostendere signifie montrer avec le désir d'être vu. Donc, l'ostentatoire, le régime de l'ostentation, c'est le régime de la manifestation, alors que on pourrait distinguer ça de l'expression. Par exemple, si j'ai une foi et que je l'exprime par un petit objet symbolique que je ne montre pas forcément, parce que j'ai pas le désir de le montrer, j'ai un objet sensible qui exprime ma foi. Et donc, l'expression et la manifestation sont deux choses distinctes. La loi issue de la commission Stasi a volontairement visé toute manifestation ostensible, c'est-à-dire avec le désir d'être montré, c'est-à-dire qui a ces... Et ça, c'est parfaitement clair.
C'est pas facile d'interpréter
non, mais
le
c'est
désir
pas facile.
Et l'intention d'élèves qui, par ailleurs, ne sont pas forcément clairs sur ce sujet.
Je voudrais préciser que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il faut être très précis, Hanifa Chérifi, inspectrice générale de l'éducation nationale, nommée par M. Bayrou, ministre de l'éducation nationale, a fait un rapport sur les effets de la loi. Et ce rapport précise que ces effets ont été très positifs, qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes et que ces problèmes ont pratiquement tous été réglés par l'explication. Et je crois que c'est très important de le rappeler, il ne faut pas dire que cette loi a entraîné des conséquences catastrophiques. Après, les débordements qui sont liés après, chers collègues, elles sont liées à autre chose. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'un maire... le maire de Cannes interdit de se baigner en burkini sur la plage. Ça me paraît hallucinant.
Mais je tenais pas forcément à faire le lien.
Non, mais il le fait au nom de la laïcité. C'est pas du tout au nom de la laïcité qu'il peut le faire. C'est surtout qu'il mène une campagne politique, identitaire, qui est, me semble-t-il, peu acceptable.
Et c'est bien pour ça que j'ai posé les termes du débat en tout début d'émission. Oui, la question est connectée politiquement et peut-être parfois aussi dans la tête des élèves. Mais Jérôme Martin vous répond.
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, d'une part, la commission Stasi a rendu un rapport avec un certain nombre de propositions dont une seule a été reprise. Vous êtes plutôt bien placé pour le savoir. Et donc, le travail que vous avez fait n'est pas le travail ensuite des parlementaires après et n'est pas le travail d'application de la loi. Et nous, sur le terrain, nous sommes quand même bien placés pour savoir les écarts. Vous nous avez évoqué, par exemple, la nécessité d'un dialogue, ce dialogue n'intervient pas toujours. Et donc, du fait
c'est
même...
C'est
dommage. Que, voilà, oui, mais donc voilà, donc, d'où la nécessité parfois aussi d'avoir un manuel...
Mais ce n'est pas la loi qui en est responsable, cher collègue.
D'accord. En fait,
Vous impliquez ça à la loi.
Je n'étais pas d'accord avec vous, je ne vous ai pas interrompu, je pense qu'on peut faire pareil. Ça, enfin, nos élèves, on leur apprend ça aussi, donc je pense qu'on peut tous, entre adultes, en être capables. Vous évoquez les conséquences de la 2004 et le passage d'ostentatoire à ostensible. Moi, je voudrais rappeler précisément quelque chose qui évoque beaucoup les polémiques de cet été. C'est que dans toutes les années 90, le Conseil d'État a été saisi d'un certain nombre d'exclusions d'élèves qui portait le voile. Sa jurisprudence a été constante depuis l'avis que Lionel Jospin lui avait demandé en 1989. Le port seul d'un signe religieux, en l'occurrence le voile, ne suffit pas pour l'exclusion d'une élève. Il faut qu'il soit accompagné d'un comportement, voilà, absentéisme, ou comportement agressif, prosélytisme. C'est précisément parce que le Conseil d'État empêchait ces exclusions-là que la loi de 2004 a été nécessaire. Donc on a complètement modifié la question de savoir ce que c'est que de porter un signe et la valeur de ce signe pour la même élève en un an. Donc au niveau juridique, on a changé. Et le problème, c'est que j'ai beau lire les discussions parlementaires, les rapports, à aucun moment la question de savoir ce que c'est que l'impact de porter un signe là-dessus sur les autres élèves, en quoi ça poserait problème. Qu'il y ait un comportement agressif derrière, évidemment que ça c'est un souci, mais le simple port du signe et rien dans les débats ne l'éclaire. C'est un impensé total. On donne un exemple totalement absurde. Imaginons dans les années 80 que j'étais collégien, je sois venu avec un t-shirt de Mylène Farmer. Est-ce que tout le collège serait mis à chanter « Je suis libertine » ? Donc là, avec un signe religieux, de quoi a-t-on peur ? Attendez. Rien n'a été dit là-dessus.
Écoutez Rue des Écoles sur France Culture par Louise Touret.
Et nous reparlons de laïcité après cette chanson Pray, titre malicieusement choisi par notre réalisatrice Somanina. L'interprète c'est Plan B. Laïcité qui aujourd'hui s'applique tout à fait dans les écoles. On a rappelé la loi de 2004, l'affaire du voile en 89 qui a été un tournant. On tient à dire aussi ici qu'il y a eu d'autres affaires, plus récemment les ABCD de l'égalité, avec des revendications de groupes catholiques en particulier pour les retirer. Évidemment, l'existence d'une école privée, religieuse, vous l'avez rappelé, Pénaruse, financée par l'État, et vous dites que ce n'est pas normal en termes de laïcité. On revient sur le débat qui était en cours. Jérôme Martin, professeur de français, a parlé d'évolution juridique de la loi que vous contestez, Henri Pénaruse. Explication.
Non, c'est pas que je conteste, c'est que je pense que mon collègue sous-estime les événements qui ont conduit la République à examiner le sort réservé à la laïcité. Nous avons eu près d'une centaine d'auditions dans la commission Stasi, dont j'étais membre. Nous avons eu des proviseurs qui nous ont expliqué que les manifestations d'appartenance religieuse provoquaient au sein de l'école des conflits qui n'existaient pas lorsqu'il n'y avait pas ces manifestations. Nous avons su, par exemple, que dans un lycée du 4e arrondissement, à la cantine, il y avait des tables avec des jeunes juifs et d'autres avec des jeunes musulmans, avec des signes, et que c'était effectivement conflictuel. Donc il nous a fallu résoudre un problème que l'avis du Conseil d'État, qui semble satisfaire mon collègue, ne permettait pas de résoudre, à savoir ne pas mettre l'application du principe de laïcité à la merci du rapport de force local. Parce que nous avons auditionné des chefs d'établissement qui nous disaient, voilà, en un endroit, je dois défendre la laïcité et il y a un bras de fer qui s'engage avec les chefs religieux autoproclamés. Si j'ai le rapport de force pour moi, je peux appliquer la loi de la retenue, de la manifestation. Si je ne l'ai pas, je suis obligé de m'incliner. Donc il y avait une disparité selon les établissements. Il y a le principe de l'indivisibilité, de l'unité de la loi républicaine était bafoué. Donc ça ne suffisait plus. Il ne suffisait plus de laisser l'autorité locale apprécier les choses. Il fallait redire le droit fermement, de telle façon que l'unité, l'indivisibilité de la République soient respectées. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Il faut le rappeler. Et Hanifa Chérifi a bien précisé qu'à partir du moment où les chefs religieux autoproclamés qui avaient décidé de faire la guerre à la laïcité républicaine ont compris qu'ils se heurteraient au plus haut niveau de l'État, que ça devenait une loi, que la règle n'était plus dictée par le rapport de force locale, mais par la loi républicaine, les choses sont un petit peu rentrées dans l'ordre. Donc il est très important de rappeler ça. C'est cela qui a fait tout l'intérêt de la loi sur les signes religieux
qui pour vous est,
de 2004.
Et donc le texte qui
pas
a
seulement
apaisé
pour moi. Madame Hanifa Chérifi a rendu un rapport qui est très clair
studio.
Sur ce point.
Pour vous dans ce studio, donc ça c'est l'apaisement à vos yeux, c'est les rapports de force locaux, un grand texte, bon, voilà, c'est la force d'une loi et en même temps on voit que tout de même dans les établissements il faut des ajustements, jusqu'où doivent-ils aller? Est-ce qu'on peut parler, parce qu'on en parle dans d'autres pays, d'accommodements raisonnables? On sait aussi que ces accommodements malgré tout, ils existent à la cantine avec les menus de substitution. Est-ce qu'on peut discuter localement? Est-ce que ce serait être victime d'un rapport de force?
Les accommodements raisonnables sont très contestés au Canada, vous le savez. Hein.
Aussi, mais de même que la loi peut être contestée en France. Caroline Isambert.
La principale difficulté, c'est que j'imagine qu'il y a certains de nos élèves avec Jérôme qui doivent nous écouter. Et franchement, demain, ils n'auront pas changé d'avis. Quand on leur demandera qu'est-ce que la laïcité, ils diront la laïcité, c'est ne pas porter de voile à l'école. Et c'est ça qui m'inquiète.
Mais vous pourriez leur parler de la kippa ou d'autres choses aussi. Ne pas porter un t-shirt sur lequel il y aura écrit humanistaté, par exemple. Leur dire, c'est ça aussi la laïcité.
Déjà, je leur couperai pas la parole parce que je pense que c'est important que dans l'espace de la classe, les élèves puissent s'exprimer.
D'accord,
c'est le seul moyen pour les faire évoluer. Donc, le souci, c'est que l'obsession du signe, et vraiment, on en est les témoins ce soir, en fait, elle prend le pas sur la transmission de la valeur laïque, qui est deux choses assez simples. Vous m'excuserez d'être un petit peu réducteur. Le principe de neutralité de l'État et le fait de la part des enseignants et de l'institution de pouvoir recevoir un enseignement qui n'est pas imprégné par une doctrine religieuse ou athée, et d'autre part l'assurance de la liberté religieuse qui est aussi au fondement de la laïcité républicaine. Dans la loi de 1905, c'est très clair. Et tous ces aspects-là de la laïcité, ils sont complètement avalés par ce débat sur le signe. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que c'est que s'attaquer au fondamentalisme religieux dans les écoles? Eh bien, c'est faire ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire, c'est mener des projets contre le sexisme. C'est accompagner les jeunes filles dans des projets d'ambition, dans des projets d'orientation ambitieux. Elles qui s'auto-censurent tant. Et tout cet aspect-là, il est réduit, écrasé par cette idée que lutter contre le fondamentalisme religieux dans les écoles, ça serait simplement mettre de côté un certain nombre de jeunes filles qui n'auraient pas le bon vêtement. On trouve que c'est pas rendre honneur à ce qu'est notre métier et à ce qu'est la laïcité scolaire.
Caroline Isambert, une seconde. Est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes filles ne sont, et ces jeunes hommes aussi, ne sont jamais porteurs, eux, d'un projet politique, d'une remise en cause de la laïcité? Qui, voilà, ce n'est pas juste des gens qui portent un vêtement parce que voilà, ils peuvent aussi, parfois, pas tous.
Alors je pense que c'est
militer et avoir un projet, y compris de remise en cause des choses.
Je pense qu'ils peuvent le faire sans. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que le projet politique religieux qu'on porte, il est assez peu corrélé à ce qu'on a sur la tête. Et c'est-à-dire que des élèves qui auraient un discours religieux problématique, eh bien, ça ne se manifestera pas forcément par le signe. Et ça, c'est notre rôle d'enseignant de le voir, de le percevoir et d'apporter des réponses.
Henri Pénervis.
Il est évident qu'il ne faut pas concentrer tout sur la question du signe. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous rappelle une chose. C'est que pendant les auditions de la commission Stasi, nous avons écouté Chador Javan, jeune femme iranienne qui a subi des violences parce qu'elle était une fille qui voulait montrer ses cheveux, qui voulait montrer son visage et qui disait que c'était une maltraitance qu'on lui impose de porter le voile. Nous avons écouté Fadela Amara, qui avait créé le mouvement Ni pute ni soumise. Des chefs politico-religieux autoproclamés leur disaient « Si tu ne vas pas à l'école voilée, cela veut dire que tu trahis ta communauté. » Et donc, la question s'est posée pour nous de savoir si nous pouvions accepter que dans l'école de la République, les chefs religieux fassent la loi par la médiation de signes religieux, par la médiation d'un voile. Les violences faites aux jeunes filles d'origine maghrébine qui voulaient aller tête nue à l'école, ne les oubliez pas. Nous, on en a entendu parler avec Chador Javan, qui a écrit un livre qui s'appelait « Bas les voiles », et avec une jeune femme iranienne, donc, et avec Fadela Amara, qui a écrit le livre « Ni pute ni soumise ». Donc, il faut que vous voyez à quel type de problème la loi avait à faire face. Et c'est ce problème qu'elle a voulu résoudre. Maintenant, il y a évidemment d'autres questions à l'école. Qu'il faille faire des projets pédagogiques, nous en sommes d'accord. Mais la question, c'est de savoir si, oui ou non, l'école fera respecter la neutralité qui permet l'étude. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Le ministre du Front Populaire, Jean Zay, avait fait 3 circulaires pour interdire au sein de l'école, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, le port de signes religieux auxquels il avait ajouté d'ailleurs des signes politiques. Moi, personnellement, je regrette que, à l'époque, on n'ait pas tenu compte de notre recommandation qui était d'interdire les signes politiques autant que les signes religieux au sein de l'école. Parce qu'il s'agit de mettre l'espace scolaire à l'abri des conflits qui existe dans la société civile. Il faut que l'école puisse avoir des règles. Si quelqu'un vient avec un t-shirt sur lequel il y a écrit « humaniste athée », il ne sera pas plus accepté parce qu'il pourra faire violence à ceux qui sont croyants. Et c'est le même problème pour les accompagnants ou les accompagnantes scolaires. C'est exactement le même problème. Les accompagnants scolaires comme les enseignants doivent être tenus à la règle de la neutralité qui est la condition de l'égal respect de tous les enfants. On n'imagine pas quelqu'un qui vient avec un t-shirt humaniste athée parce que s'il encadre des enfants qui sont croyants, personne ne l'acceptera. Donc, alors, la réciproque est vraie.
Pour, pour la question des accompagnants scolaires, ça n'a pas été tranché en ce sens. Les maires voilées peuvent, à ce jour, maintenant, accompagner
enfin,
les classes.
Enfin, c'est plus ambigu. La circulaire Châtel n'a pas été révoquée.
Voilà. Mais il y a un usage qui est préservé. Jérôme Martin, enfin, je ne sais pas lequel des deux va répondre, mais
juste un point rapide sur les femmes parce que c'est
assez. Et je voulais vous demander, oui, s'il y a des élèves que vous oubliez de protéger pensant pas à un espace préservé, totalement préservé.
J'y suis attachée en Iran comme en France, c'est la liberté des femmes de se vêtir comme elles le souhaitent. Et je pense que c'est ça que nous cherchons à préserver. Et je suis un peu étonnée que ça soit un régime qui puisse être à double standard.
Monsieur Pignariz, vous avez indiqué que les chefs religieux ne devaient pas faire la loi au collège ou à l'école. Il se trouve que bien si, vous avez cité ces exemples des ABCD de l'égalité, mobilisation très importante dans le cadre de Manif pour tous, de mouvements catholiques réactionnaires, mais aussi musulmans, qui ont amené ce gouvernement socialiste à retirer une expérimentation fondée sur le concept scientifique du genre qui était destiné à lutter contre le sexisme et l'homophobie à l'école. C'est une défaite monstrueuse de la laïcité dont ce gouvernement s'est senti responsable. C'est une défaite monstrueuse du droit des femmes qui est liée à des chefs catholiques. Et là, personne n'en a parlé, très très peu de personnes en ont parlé, tandis que l'élève qui va arriver avec sa jupe noire, on en parlera pendant les médias. Le lobby religieux a fait la loi via le gouvernement socialiste en retirant les accès d'égalité.
Excusez-moi, cher collègue, sur ce point, je suis d'accord avec vous. J'ai critiqué vivement les gens d'un Manif pour tous qui attaquaient les APC, les qualités.
C'est le gouvernement socialiste qui
vous
avez critiqué.
Ne vous inquiétez pas, je suis aussi sévère avec le lobby catholique intégriste que je peux l'être avec le lobby.
Je vous offrirai le dictionnaire amoureux de la laïcité.
Dernière chose, parce que c'est quand même très important qu'on soit d'accord, chers collègues. Ce qui se joue, effectivement, c'est la liberté. Mais quand une jeune fille est contrainte de porter le voile, qu'est-ce que vous faites pour sauver sa liberté? On est tous d'accord.
Mais pas en l'excluant de l'établissement.
Mais il s'agit pas de l'excluer. Mais
non,
mais
on l'exclut.
Je suis désolé. On ne l'exclut pas. Si quelqu'un vient tout nu au lycée, on lui dit « tu ne rentreras pas au lycée si tu ne t'habilles pas ». Il ne s'agit pas d'exclure, il s'agit de poser une règle. On peut très bien entrer dans un lycée en respectant une règle. Je suis d'accord que la règle, sur le fait que la règle doit être expliquée, mais on n'exclut pas...
Une règle n'émancipe pas tout cela.
On n'exclut pas une personne, cher collègue. On lui dit « voilà, il y a des règles ». Ici, on est dans l'école de la République et un minimum de retenue de la tenue vestimentaire est une preuve de respect. On enseigne la distance à soi et non pas le consentement à des fanatismes religieux. C'est quand même très important.
Je ne pense
ça.
Pas que le Dernier voile point. Soit le signe.
Mais je parle pas que
unanimement
du voile. Je parle
de la religieux.
On vous mettra pas d'accord. L'idée, c'est de réfléchir et de proposer une réflexion sur cette question à tous les auditeurs, les éducateurs qui nous écoute. Dernier point, et très rapidement, parce qu'il nous reste une minute pour ce sujet-là. Est-ce qu'on manque de formation sur le sujet, d'information en tant qu'enseignant?
Très clairement, très clairement, que ce soit sur la question du fait religieux, de l'enseignement du fait religieux, qui est un autre aspect qu'on aborde dans le livre. Donc, puisque, voilà, on a l'impression que notre livre est sur la loi de 2004, ce qui n'est absolument pas le cas. Comment enseigner un texte religieux, comment faire autour de ça. Et la question de la formation des enseignants sur cette question-là est un problème grave. Et là, on en revient à un problème social de fond, les moyens.
On passe au dernier sujet.
Attendez,
on vous réinvitera sur les algorithmes.
Non, les
Tout
algorithmes.
De suite. Un exemple d'algorithme en matière de composition musicale, composition par ordinateur pour piano, accordé en intonation juste. C'est l'IRCAM qui nous a permis d'accéder à cette magnifique composition. On va parler des algorithmes, on en a parlé en début d'émission, les algorithmes appliqués à l'éducation et à l'affectation des élèves. Bonjour Julien Grenet.
Bonjour.
Vous êtes économiste au CNRS et à l'École d'économie de Paris, spécialiste d'éducation. Vous aviez publié une étude sur l'impact d'AffelNet, l'algorithme d'affectation dans les lycées, sur les lycées d'Île-de-France. Vous allez suivre une toute nouvelle expérience. France. Affelnet pour les collèges, ça va se passer à Paris à la rentrée prochaine. On l'a évoqué en début d'émission. Alors déjà, pourquoi utiliser des algorithmes pour affecter les élèves? Pourquoi avoir recours aux mathématiques et à la machine pour faire les choix à la place des individus et de l'administration?
Alors, je crois que c'est en partie une réponse à l'inefficacité de l'affectation classique qu'on observe en France, qui est le principe de carte de la sectorisation des établissements, où à chaque adresse correspond un collège. Le problème de ce système, c'est qu'il s'avère très inefficace pour lutter contre la ségrégation dans les établissements, puisque la carte scolaire se superpose à un tissu urbain extrêmement ségrégé. Et du coup, le système d'affectation classique ne fonctionne plus aujourd'hui. Et dans ce contexte, les algorithmes, ils ont pour avantage de réguler les choix et de permettre d'élargir les secteurs de recrutement des établissements. Donc, on serait amené à demander aux familles de faire des vœux pour 2, 3, 4 collèges, par exemple, et d'affecter les élèves avec des règles de priorité.
Donc, il y a un objectif pour l'éducation nationale, rendre les établissements plus hétérogènes socialement. Tout ça sur fond de reproduction sociale extrêmement forte en France à l'école, l'école française dont on dit qu'elle amplifie les inégalités sociales. Alors, est-ce que ça a marché déjà pour les lycées? Est-ce que ça a fonctionné en Ile-de-France, vous qui avez étudié la question, Julien Grenet?
Alors, ça a fonctionné à Paris, parce que le logiciel Affelnet à Paris fonctionne de manière très spécifique. L'académie est découpée en 4 grands districts, au sein desquels on peut choisir entre 15 et 17 lycées d'enseignement général et technologique. Et qu'est-ce qu'on a observé depuis la mise en place d'Affelnet en 2008 et la création du fameux bonus boursier qui donne une priorité aux élèves boursiers sur critères sociaux? Eh bien, on a observé une baisse de 20 à 30% de la ségrégation sociale dans les lycées publics, quand dans le même temps, à Créteil et Versailles, où Affelnet finalement fonctionne largement comme l'affectation au collège, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix de son établissement, la ségrégation est restée parfaitement stable au cours de la même période.
Et pourtant, il y a des bugs. On a entendu parler d'un lycée, le lycée Turgot, qui est passé de 40 à 83% de boursiers. Là, il n'y a plus de diversité dans l'établissement.
Alors,
c'est de la ségrégation aussi.
Absolument. Donc, le système Affelnet, il a un problème technique, mais qui pourrait être facilement corrigé. C'est ce fameux bonus boursier qui a été un peu mal conçu. C'est-à-dire qu'on donne une priorité absolue aux boursiers, alors que la mixité, ce n'est pas donner une priorité à certains élèves sur d'autres, c'est viser à un équilibre. Autrement dit, si on ne plafonne pas le bonus, qu'est-ce qui se passe? Si tous les boursiers demandent Turgot, ils ont automatiquement leur premier vœu, et donc Turgot devient un lycée 100% boursier. S'il ne l'est pas aujourd'hui, c'est juste parce qu'il y a des redoublants non boursiers qui restent de l'année précédente.
Alors, on peut préciser que le proviseur de Turgot s'est mis très en colère au début de l'année, dénonçant un système qui n'avait pas vraiment changé, avec certains grands lycées qui, eux, ne sont pas dans le système. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est en fait un double système. C'est-à-dire, pour certains, un algorithme un peu mystérieux, on va y revenir, qui est censé mieux répartir les élèves, mais tout de même, un bon vieil élitisme, je ne sais pas s'il est très républicain, qui consiste à créer, à préserver des filières d'élite.
Oui, alors je crois que c'est ce qu'on peut regretter profondément à Paris, c'est le maintien de certains lycées, le fait que certains lycées restent en dehors de la procédure. Évidemment, les deux plus connus, Henri IV et Louis le Grand, qui sélectionnent sur dossier en dehors d'Affelnet, alors qu'ils pourraient parfaitement intégrer la procédure. Et par ailleurs, le maintien, voire le développement de tout un tas d'options, de classes très compliquées, de classes musique et danse, de classes rugby, de classes européennes, qui ne sont connues que des initiés et qui permettent à certains, effectivement, d'échapper à une affectation, l'affectation commune.
Est-ce que le logiciel Affelnet et d'autres logiciels d'affectation comme APB pour l'université sont publics? Est-ce qu'on connaît leur fonctionnement? On avait entendu pour APB que finalement le code source du logiciel, je parle sous votre contrôle, j'ai pas fait énormément de mathématiques dans mes études, ce code n'avait pas été dévoilé.
L'algorithme utilisé pour toutes ces procédures, mais ce n'est pas seulement valable pour APB, Affelnet, c'est aussi le cas pour l'algorithme, par exemple, qui régit l'affectation des enseignants aux établissements, c'est plus ou moins le même. C'est un algorithme très connu qui est utilisé dans de très nombreux pays. Il s'appelle l'algorithme d'acceptation différée. Il a été conçu dans les années 50. C'est un algorithme qui a de très bonnes propriétés. Simplement, effectivement, en France, on a une certaine culture de l'opacité, notamment dans le système éducatif, qui fait qu'on ne rend pas public ce type d'informations alors qu'elles sont cruciales pour la transparence de la procédure
et l'acceptation. Et dans les autres pays, c'est transparent ?
Dans les autres pays, il y a beaucoup, un effort beaucoup plus important qui est mis pour faire la pédagogie de ces algorithmes et également donner beaucoup plus d'informations, par exemple, sur les seuils d'admission pour les différents établissements. Ils sont publiés chaque année, voire dans certains pays, on publie carrément la liste de tous les candidats, leur classement, leurs points, leurs bonus, de manière à ce que chacun puisse se situer.
Dans la presse ?
Dans la presse, par exemple, c'est ce qui s'est passé au Chili, au moment de la mise en place de l'équivalent d'APB à l'université, qui venait en fait essayer de résoudre les problèmes de corruption qui existaient de façon notoire au Chili, dans les inscriptions dans l'enseignement supérieur. Et ben, en même temps qu'on a mis en place la procédure, on a publié dans la presse, par d'épais volumes, la liste de tous les candidats avec leur barème. Je crois quand même qu'on a fait des progrès de ce point de vue-là, parce que si on remonte dans le temps, on avait auparavant une opacité généralisée sur l'affectation au lycée. On avait ce fameux marché aux élèves dans les sous-sols du rectorat. Et je crois que personne...
Attendez, le marché aux élèves, en quoi consistait-il ? De quoi parlez-vous ?
Alors, ce fameux marché aux élèves, c'était que pour régir l'affectation en l'absence d'algorithme, eh bien, on avait une procédure manuelle qui consistait pour les proviseurs à se réunir au rectorat de Paris, à examiner les dossiers de candidature des élèves et à se les répartir. Selon un ordre bien particulier, les lycées d'élite choisissaient les premiers et puis une longue file d'attente suivait. On pouvait éventuellement s'échanger un boursier ou deux, mais ce système préservait le caractère complètement hiérarchisé des lycées parisiens.
Et depuis l'annonce de la mise en place de cette AFELNET des collèges, on voit poindre beaucoup de réactions de parents qui se demandent en fait à quelle sauce ils vont être mangés, ou en tout cas à leur enfant, en quelle mixité. Est-ce qu'on va leur demander d'aller dans des établissements ghetto, loin de chez eux ? Est-ce que l'établissement en question va avoir des moyens suffisants pour fonctionner ? Enfin, toutes les questions d'orientation qui peuvent se poser et qui peuvent créer des craintes, légitimes ou non. Mais
alors,
des craintes.
Ces craintes sont parfaitement légitimes, mais l'objectif précisément de ce type de dispositif, c'est d'éviter à de nombreux parents d'avoir un choix cornélien à faire entre inscrire son enfant dans un collège, un ghetto de pauvres, ou pour y échapper, inscrire son enfant dans un ghetto de riches. Et certains parents ne sont pas très à l'aise avec ce choix, et pourvu que on évite d'avoir des collèges à plus de 50% d'élèves défavorisés quand on en a que 16% en moyenne à Paris. Je crois qu'un certain nombre de parents qui font le choix du privé, notamment dans le nord-est parisien, seraient prêts à revenir dans le public. En témoignent les nombreux collectifs de parents qui ont émergé ces dernières années, justement pour essayer de pousser dans cette direction, de réclamer des multicollèges dans leur quartier et de faire un travail de terrain auprès des familles dans les écoles primaires, pour coordonner les parents, pour dire on reste ensemble et on va à l'école publique, au collège public du quartier.
Bon, mettons que beaucoup de parents ont envie de rester dans l'école publique. Certains ont quand même envie d'éviter une mixité non souhaitée. Et finalement, c'est toujours un choix possible avec les établissements privés qui, eux, de toute façon, sont hors procédure. Donc, à quoi cela sert de créer tout un nouveau procédé alors que 30% des places ne sont pas concernées, puisque c'est à peu près ce que représente l'enseignement privé à Paris?
Alors,
pour prendre toujours cet exemple, très parlant de la capitale.
Absolument. Le privé est un facteur majeur de ségrégation dans les collèges à Paris, mais ce n'est pas le facteur principal. La ségrégation entre les collèges parisiens, elle existe non seulement entre le privé et le public, mais elle existe principalement dans le public lui-même. À quelques rues d'écart, vous avez des écarts abyssaux entre les établissements. Vous habitez au 9 boulevard Barbès, vous êtes affecté à Roland d'Orgelès, vous avez 17% de boursiers. Vous habitez au 10 boulevard Barbès, vous êtes affecté à Georges Clémenceau, 64% de boursiers. Voilà, donc qu'on peut résorber en associant ces quartiers, et le privé est largement saturé aujourd'hui. L'enseignement catholique l'a confirmé, il est en excès de demande et ce n'est pas demain la veille qu'il pourra étendre sa capacité. Et par ailleurs, n'oublions pas que je crois sincèrement que certains parents auront la démarche de revenir dans le public si on leur propose autre chose qu'un collège, un ghetto de pauvres.
Mais au fond, la vraie question, c'est quelle est la promesse de réussite scolaire, de climat scolaire, d'avenir pour les enfants, d'épanouissement, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une école, un collège où cela se passe bien pour son enfant, si on est juste en train de regarder la carte scolaire, les zones résidentielles, comment on va changer les enfants, ça va pas influer sur l'efficacité de l'enseignement qui est délivré dans les établissements.
Absolument. Et il ne s'agit pas de dire que c'est une potion magique qui va résoudre toutes les difficultés. Le secteur multicollège, c'est un ingrédient parmi beaucoup d'autres et qui doit s'accompagner nécessairement d'une redéfinition notamment du lien entre les écoles élémentaires et les écoles et les collèges, et entre les collèges d'un multisecteur, favoriser aussi la mutualisation d'un certain nombre d'enseignements, d'options, pour permettre à tous d'avoir accès à ces fameuses options qui favorisent la diversité des enseignements, plutôt que de les réserver à certains élèves sélectionnés dans des établissements favorisés du point de vue social.
Option de langue. Voilà, on a dû couper un peu brutalement, Monsieur Pénard-Ruiz, nous ayant mis en retard. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission et consulter nos anciennes émissions. La semaine prochaine, nous parlons du numérique à l'école. Et je remercie toute l'équipe de cette émission, Alexandre Dang et Jacques Hubert, à la technique. Somanina est à la réalisation. Laurence Genepin est l'attachée d'émission de Rue des Écoles.